Je vais bien parler du XXe siècle, bien entendu. Était sensibilisé encore à ce sujet, et les hommes de ce siècle et les femmes de ce siècle savaient l'importance, pas simplement pour les protestants, autant on a l'impression aujourd'hui qu'il est un peu passé sous la table. Il y a une chose qui est très frappante, c'est que dans les fameuses dates, je vous rassure tout de suite, pour les personnes ici dans cette salle, on enseigne toujours la chronologie, quand on a ce qu'on dit parfois dans l'histoire, mais on choisit ces dates. Or, très curieusement, on a bien retenu Henri IV et l'édit de Nantes, donc ça c'est bien retenu, mais après, on sait pas ce que, on a l'impression que l'édit de Nantes continue, puisque après, les dates suivantes, c'est le règne de Louis XIV, mais sans dire ce qui s'est passé dans ce règne de Louis XIV. Et d'ailleurs, vous regardez, par exemple, je le dis dans mon livre, un journal dit de référence comme Le Monde, qui a l'avantage d'avoir des moteurs de recherche, et vous apercevez que autant au XXe siècle, il est vrai qu'il y avait eu le tricentenaire, l'événement était très présent, autant au XXIe siècle, depuis les deux dernières décennies, eh bien, ce n'est qu'incidemment que c'est évoqué. Et pourtant, je crois que c'est un des événements les plus fondamentaux de l'ensemble de notre histoire, et dans bien des cas, pas forcément pour le meilleur. Pas forcément pour le meilleur, même si pour la communauté protestante, c'est une de mes thèses, ça a été presque une chose étonnante. Je crois que si le protestantisme français subsiste au sens de vraiment une minorité qui compte, eh bien, je crois que c'est un peu à Louis XIV qu'ils le doivent, et surtout à leurs successeurs, et c'est plus encore à leur capacité de résistance sous toutes les formes. Alors, si vous le voulez bien, je vais donc avec vous visiter rapidement, je vous rassure tout de suite, ces deux siècles, en insistant sur quelques points. Et en même temps, c'est tout à fait normal, vous n'êtes pas des spécialistes, vous rafraîchir la mémoire ou même vous donner des informations. Alors, premier point de départ, évidemment, l'édit de Nantes lui-même, 1598, au terme d'environ une trentaine d'années de guerre de religion qui atteignent une violence extraordinaire. Bon, il y a l'exemple de la Saint-Barthélemy, mais soyons justes, du côté catholique, il y a les massacres à Nîmes, par exemple, de la Michelade, qui sont au moins aussi violents. Ce qui montre qu'en réalité, la violence est également partagée, si je peux me permettre l'expression. Et nous avons la chance d'avoir un souverain qui, il est vrai, a circulé de l'une à l'autre confession, qui se rend parfaitement compte qu'il faut arriver à un apaisement. Et il est appuyé par un groupe qu'on appelle les politiques, et le nom est bien choisi, car ils ont pris conscience, catholiques comme protestants, que, au-delà des divergences théologiques, de culture, eh bien, appartenant à un même pays, je ne dis pas encore une même nation, il faudrait arriver à gérer sa différence. Et c'est l'édit de Nantes, selon le très beau mot qu'on a trouvé en 1998, donc au moment du tricentenaire, plutôt du quadricentenaire, c'était coexister dans l'intolérance. Ça indiquait donc que c'était un compromis. Ce n'était pas encore la tolérance, c'était un compromis. Mais un compromis qui était quand même très neuf, c'était moderne, puisque ça veut dire qu'on peut être sous un même État en ayant deux confessions différentes, alors que le principe habituel, c'était tel prince, telle religion. Ça, c'était l'aspect moderne. Et puis, quand même, il y avait un aspect ancien qui était le fait que, comme les protestants n'avaient pas tout à fait confiance encore, et que d'autre part, Henri IV le comprenait très bien, on leur avait accordé un certain nombre de garanties de type ancienne, c'est-à-dire des armées, des places de sûreté, un parti, c'est ce qu'on appelle le parti huguenot. C'est-à-dire que c'était à la fois la reconnaissance d'une église, avec sa théologie, ses lieux de culte, ses pratiques, et en même temps appuyé sur un groupe presque de type féodal. Si bien que, vous voyez, c'est en quelque sorte assez moderne, assez intéressant, parce qu'il y a un aspect très moderne qui annonce la laïcité d'aujourd'hui, et un aspect archaïque. Et il y a un troisième aspect aussi, qui est ambigu, mais qui est aussi moderne, qui est la croissance de l'absolutisme. Car, attention, l'absolutisme, c'est l'ancêtre des gouvernements forts, pour ne pas dire autoritaires. Et c'est donc le début. Et alors, paradoxalement, c'est grâce à l'absolutisme de Henri IV qu'il dépasse, non pas les protestants, qui étaient très contents, mais surtout les catholiques, il leur dit « c'est comme ça et pas autrement ». Et d'une certaine façon, dans cette affaire, l'État qu'il représente est en avance sur l'opinion publique, car l'opinion publique, majoritairement catholique, globalement, en dehors de certains commerçants, de certains notables catholiques, qui se rendent compte qu'il n'y a pas d'autre solution, eh bien, l'ensemble de la population catholique reste violemment anti-protestante. C'est l'abomination de la désolation, c'est les diables. Soyons honnêtes, d'ailleurs, c'est un petit peu partagé de l'autre côté. Des deux côtés, il y a une incompréhension totale. Voilà. Alors, voilà pourquoi, d'ailleurs, au début, c'est assez difficile. Et à plusieurs reprises, Henri IV est obligé, permettez-moi l'expression, de taper le poing sur la table pour que les gens acceptent, et y compris en particulier dans les régions protestantes où le catholicisme est rétabli, et dans les régions catholiques et ultra-catholiques où il y a quand même le droit, dans les bailliages, un chef-lieu important, administratif, d'avoir au moins un temple. Donc, de façon brinque-ballante, ça va, mais grâce à l'autorité de Henri IV, ça progresse. Et puis, vous connaissez l'histoire, vous vous en rappelez sans doute, Henri IV est assassiné comme étant en quelque sorte déjà justement un suppôt du diable, déjà étant, même s'il s'est converti, plus ou moins mal du côté des mauvais, d'autant plus qu'il fait une politique anti-espagnole. Donc il est assassiné, et la région d'ailleurs au début accepte. Et puis il y a encore des troubles, et c'est là où il y a les dernières guerres de religion d'ailleurs, avec un chef politique d'ailleurs de prestige, qui s'appelle Rohan, avec l'ambiguïté, est-ce qu'il soutient sa religion ou est-ce qu'il soutient ses intérêts? Et l'absolutisme progressant, l'opinion publique française se rendant compte que ces phénomènes de féodalité autour des grands nobles, ce phénomène n'est pas positif, eh bien, Richelieu, avec, disons-le, probablement l'appui de l'opinion et même de certains chefs de consistoire ou même de pasteurs qui sont un peu gênés, vous voyez, de cette sorte de mélange, de confusion, non pas entre le trône et l'autel, mais cette fois-ci entre les armées protestantes, huguenotes, et le culte. Et vous connaissez, vous vous rappelez peut-être la suite, c'est la prise de La Rochelle, d'une part, et l'histoire se termine en Cévennes, avec la reddition de Rohan, et l'édit de paix de Nîmes. Et là, surprise, alors qu'il avait triomphé, il n'abuse pas du tout de ce triomphe. Contrairement à ce que lui demandait le parti ultra-catholique, ce qu'on appelait le parti dévot, eh bien, il maintient les principes religieux de l'édit de Nantes. C'est-à-dire que ça devient un deuxième édit de Nantes, mais sans le parti huguenot. Et là, ça devient vraiment complètement moderne sur ce point-là. Et ce qui montre bien que c'était la bonne solution, c'est que c'est peut-être avec un petit peu peut-être de provocation, c'est un peu une certaine âge d'or au moins de cette époque où on n'est pas dans la possibilité d'une coexistence complète. Ça se voit par le fait qu'ils reconstruisent, peuvent construire quelques temples. Ça se voit parce que, alors que jusqu'à présent le nombre de protestants en France diminuait, là ce nombre réaugmente. Et d'ailleurs, les protestants, dans la fin du règne de Louis XIII et le début du règne de Louis XIV, quand il y a la Fronde, sont les sujets les plus fidèles qu'ils soient. Et d'ailleurs, sur les théories absolutistes, c'est-à-dire qui soutiennent à fond le principe du roi lieutenant de Dieu et donc en tant que tel capable, si vous voulez, n'étant limité que par Dieu, eh bien, cet absolutisme est défendu autant et parfois même plus par les protestants. On risque d'ailleurs, par rapport à leur théologie, de prendre quelques libertés par rapport à cette théologie. Hein, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'on a le sentiment que maintenant, on ne coexiste plus dans d'intolérance. Alors, ne parlons pas de tolérance, le mot est peut-être un peu fort. Mais il y a une expression très jolie d'un de mes collègues de Lyon qui parle d'un irénisme frustre et qui parle d'une sorte de, disons, d'état de fait. Hein. Ça se voit comment? Ça se voit d'abord par les mariages bigarrés, comme le disait la grande historienne Elisabeth Labrousse pour un petit village de Gascogne. En Cévennes, on parlait de mariage mixte composé. Et dans lequel, d'ailleurs, évidemment, théologiquement, pour les deux groupes, ça pose problème. Tout simplement, le principe, dans bien des cas, est écrit, d'ailleurs, chez les notaires. Hein, disons que les garçons suivront la religion du père et les filles, la religion de la mère. Et nous avons une série de témoignages écrits sur, finalement, que ça se passe pas si mal que ça. Et puis, il y a des tas d'exemples et qui d'ailleurs vont se multiplier au moment de la révocation. On a des tas d'exemples de gens qui acceptent très bien les différences. Et je prendrai un seul exemple. C'est le grand philosophe de Rotterdam, et avant de Carla Bayle, Pierre Bayle, fils et frère de Pasteur, qui, quand on étudie sa carrière, on s'aperçoit à multiples reprises que finalement, eh bien, il fait en quelque sorte son chemin pendant très longtemps en ayant des liens de part et d'autre. Il commence par le premier lien, à savoir qu'il est envoyé par son père, Pasteur. Il n'y avait pas de collège protestant, enfin, il va dans un collège tenu par les jésuites. Et puis ensuite, il se convertit un temps au catholicisme. Il n'est pas connu, mais il se convertit un temps au catholicisme. Deux ans après, il revient à la religion de ses pères. Donc, et on est déjà au temps de Louis XIV, c'est un moment très mauvais, il est devenu relapse. Or, il y a des mesures contre le relapse terribles, y compris prises par le pouvoir. Or, beaucoup de gens le savent, catholiques bien entendu, et de bonne catholicité, qui ne sont pas des protestants déguisés, qui acceptent très bien. Et pendant un certain temps, il arrive à vivre en France dans cette situation. Et là où on voit, j'anticipe un petit peu, là où on voit, si vous voulez, à quel point l'atmosphère est apaisée, c'est que quand il y a la terrible période de la révocation, avec précédée d'une zone de terreur épouvantable, je vais y revenir dans quelques minutes, eh bien, les catholiques ne font pas de zèle particulier. Bien entendu, les gens obéissent, hein, on va y revenir, Mais les catholiques ne font pas de zèle particulier, même des choses absolument étonnantes. Il y a un gentilhomme protestant de Normandie, vous pourrez le lire, je ne sais plus si le texte a été réédité au XXIe siècle, mais il était présent au XIXe et au XXe. Donc un gentilhomme de Normand, Bostaquet, qui raconte son départ de France, et c'est prodigieux. Il reçoit l'appui de toute une série de catholiques, et en particulier, un jour, il arrive dans une réunion de gentilhommes qui avait des liens avec son gendre, et comme il ne veut pas mettre dans l'embarras ces gentilhommes normands, il lui explique sa situation, il va partir, il va émigrer. Et loin d'être critiqué, rejeté, au contraire, les gens disent qu'ils se mettent à leur service. Alors évidemment, nous sommes en Normandie, loin de Versailles, mais quand même, c'est surprenant. Alors vous me direz, c'est un notable, et il y a, c'est vrai, une cohésion entre les notables, c'est vrai. Mais il y a un personnage beaucoup plus modeste qui s'appelle Migaud, qui est un petit poitevin, un maître d'école, et qui subit de très dures dragonnades. Le Poitou est célèbre pour ses dragonnades. Eh bien, Migaud, à plusieurs reprises, a l'appui d'amis catholiques. Et quand on lit ses mémoires, vis-à-vis des populations qui l'entourent, voisins catholiques, il a l'impression qu'il est célèbre. Il leur dit, il est extraordinaire. C'est un peu, si vous voulez, on a l'impression que ces catholiques sont des justes avant la lettre, pour employer le terme concernant les juifs, le sauvegarde des juifs. Par conséquent, ce qui me frappe dans cette période, et c'est, je crois, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de demande sociale de révocation. La société française s'est maintenant habituée, alors il y a des exceptions évidemment, s'est habituée à coexister, et même si les protestants sont très différents. Alors, il y a parfois des tensions, c'est vrai, mais ce sont beaucoup plus des tensions sociales que des tensions religieuses. Par exemple, il y a un notable à Montauban qui s'appelle Garrison, la famille existe encore d'ailleurs, il y a une très grande historienne, Jeannine Garrison, et un très bon érudit, Robert Garrison. Eh bien, ce Garrison a eu affaire avec, entre guillemets, la populace, mais justement, c'est une tension sociale. Et de la même façon, en Normandie, tout simplement parce que, dans certains cas, c'est beaucoup plus complexe. Et il y a un petit peuple protestant. Mais il y a aussi l'image des protestants occupant le haut du pavé. Et il y a donc cette tension sociale. Alors, il n'y a pas de demande sociale, et néanmoins, il y a la révocation. Et là, nous en venons à cet événement donc majeur de la révocation, donc qui se situe pendant le règne de Louis XIV, règne de Louis XIV qui se divise en trois parties, je vais les dire très rapidement, rassurez-vous. Premièrement, une période de l'édit de Nantes interprétée à la rigueur, c'est-à-dire où on fait du juridisme, et dès qu'on peut, pour une raison quelconque, fermer un temple, on le ferme. Et dès qu'on peut se débarrasser d'un pasteur, on s'en débarrasse. Mais on ne révoque pas. Puis ça dure une petite dizaine d'années, des années 61 à fin de la décennie 60. Et puis comme Louis XIV a lancé une guerre contre les Provinces-Unies, pays protestant, eh bien, comme il ne veut pas, si vous voulez, mais avoir trop d'ennemis, et surtout se mettre à dos les princes protestants allemands, il y a une accalmie, curieusement, pendant la deuxième décennie, même s'il y a parfois quelques persécutions contre les protestants, mais très individuelles. Et puis alors, après la fin de la décennie, c'est-à-dire au début de la décennie 80, alors là, c'est, et je maintiens le terme, c'est la terreur. Et alors, c'est symbolisé par deux types de mesures, à la fois une mesure nationale. En juin 81, on décide que tout enfant, dès l'âge de 7 ans, peut montrer qu'il veut être catholique. Pourquoi ? C'est qu'évidemment, c'est très facile. Un gamin est curieux de voir une église, donc il va rentrer dans une église. Il est catholique. Il veut être catholique. Un gamin, pour faire, pour critiquer son père, dit une chose, il est catholique. C'est-à-dire, et derrière ça, il y a l'idée que, autour de lui, les domestiques catholiques de familles protestantes, eh bien, les familles protestantes craignent la contagion, et ça va entraîner une espèce de début de, disons, de méfiance entre des communautés qui, je vous dis encore une fois, coexistaient. Évidemment, c'est une mesure qui fait scandale. Jusqu'alors, on attendait au moins l'âge de 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. C'est donc une mesure symbolique, mais d'une violence extrême. Et puis alors, cette fois-ci, il y a la violence physique. C'est évidemment un phénomène local. C'est un intendant qui a l'idée d'utiliser la pratique. Lorsque les gens ne payent pas leurs impôts, on leur mettait des gens de guerre. On les logeait, on logeait des gens de guerre chez eux. Et évidemment, ces gens de guerre pouvaient manger, faire 3, 4, 5 repas et s'occuper, être complètement libre chez ces personnes. Et alors, on utilise cette méthode extrême, on l'utilise pour les conversions en multipliant le nombre de personnes au fur et à mesure que les gens résistaient. C'est-à-dire que si c'est tout de suite, on arrête immédiatement, mais au début, ils ne cédaient pas, bien entendu, et donc on met 2, 3, 4, 5, 6, et bien entendu, au fur et à mesure qu'on ajoute, et au fur et à mesure que le phénomène se produit, de plus en plus, on tolère dans ces soldats tout, à l'exception peut-être de l'exécution. Donc, en dehors de la mort, tout est permis, y compris... bien entendu, on dit que ce n'est pas permis, y compris les violences vis-à-vis des femmes. Le phénomène est utilisé donc en Poitou par un intendant qui prend l'initiative. Mais l'intérêt, c'est que c'est là le lien subtil entre le local et le national. Le national ne contredit pas le local. Il ne dit pas qu'il l'approuve, mais il ne le contredit pas. Et puis après... quand il voit arriver les conversions, surtout que les premières conversions sont dues à la terreur physique, et les deuxièmes conversions, série de conversions, sont dues à la rumeur. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens s'aperçoivent que quoi qu'il arrive, à moins d'être des martyrs ou des héros, on ne s'en tirera pas sans signer le registre d'abjuration. Il y a une série de gens qui n'attendent même plus la dragonnade pour signer. Et ça permet cette sorte d'hypocrisie extraordinaire de dire « mais ça s'est fait sans violence, il n'y a pas eu de soldats ». Et vous allez voir à quel point cette tactique va être efficace, première tactique veillée en 81, et va être efficace pendant toute l'année 85. Donc, à partir de là, si vous voulez, on a le sentiment que l'idée de Louis XIV est extrêmement claire. Il veut avoir le principe une foi, une loi, un prince. Et il applique donc telle quelle l'idée de tel prince, telle religion. Et donc un retour en arrière. Alors il peut le faire d'autant plus que tout paraît lui réussir. Tout paraît lui réussir. Il a fait la paix avec ses adversaires catholiques d'Espagne et de l'Empire, du Grand Empire romain germanique. Les autres, il a la chance d'avoir en Angleterre un souverain catholique. Donc tout lui réussit. Et alors c'est d'autant plus facile que les troupes sont à sa disposition pour multiplier les dragonnades. Et ses intendants, c'est-à-dire l'équivalent des préfets, se rendent compte que c'est ce qu'il faut faire. Par conséquent, ils multiplient les dragonnades dans un certain nombre de provinces de France. Et alors, ce qui va beaucoup les frapper, c'est ce qui se passe dans le bas Languedoc et les Cévennes. Et le bas Languedoc et les Cévennes, ils ne s'en occupent qu'à la fin. c'est-à-dire à la fin de l'été, au début de l'automne 85. Là, il se rend compte que, Louis XIV, que ses troupes font merveille dans les principales villes Nîmes, Montpellier, Uzès, et surtout dans les campagnes. On n'a même plus besoin de faire rentrer les troupes dans les bourgs, les gens se précipitent sur les registres d'abjuration. Et évidemment, tellement, si vous voulez, les récits sont épouvantables, et tellement les gens ont l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Alors, si, ils peuvent, dans ce cas-là, quitter leur maison, c'est ce que plus qu'on ne le croit le font, et aller dans les campagnes, se cacher dans les campagnes. Mais encore faut-il pouvoir se cacher dans les campagnes. On le peut en Cévennes, mais on le peut beaucoup moins sur la plaine. Le résultat, c'est que, en l'espace de quelques jours, je ne dis pas quelques semaines, le protestantisme balanguedocien et cévenol s'est complètement effondré. Et évidemment, il est facile de dire qu'il n'y a plus besoin d'édit de Nantes, puisqu'il n'y a plus de protestants. Simplement, dans l'édit, il y a deux problèmes. Comme les spécialistes de l'économie de son gouvernement, Colbert est mort à ce moment-là, mais la famille de Colbert signale, attention, les protestants, ce sont aussi des marchands, ce sont des négociants. Alors, c'est un peu ennuyeux, c'est des artisans, il ne faut pas qu'ils s'en aillent. Donc, on va, contrairement au droit international de l'époque, interdire le départ, interdire l'émigration. Ce qui, au point de vue du droit international, est quelque chose de scandaleux. Je parle de l'époque, attention, je me place dans l'époque, parce qu'il y avait une sorte disons, d'accommodement par rapport à la liberté de conscience, à savoir que, certes, tel prince, telle religion, mais si vous n'étiez pas d'accord, vous quittiez le prince et vous aviez le droit de vous réfugier. Alors, comme il y avait cette position qui est tout à fait nouvelle pour l'époque, je parle par rapport à ce qui se passait dans tous les autres pays, il y avait un dernier article dans lequel on disait que les quelques rares qui conservaient dans leur cœur leurs vieilles idées protestantes, ils pourraient rester à condition qu'ils ne manifestent jamais ces convictions. Mais comment l'interpréter, ça? Et un certain nombre de gens ont dit, bon, ben d'accord, c'est la dévotion privée, je ne vais pas aller au temple, d'ailleurs il n'y aura plus de temple, je ne vais pas du tout faire du prosélytisme, mais je conserve ma position. Mais quand tel ou tel noble, tel ou tel gentilhomme bien connu dit qu'il ne conserve sa position, les intendants ne savent pas très bien comment faire. Si bien qu'ils disent, mais on n'y comprend rien. On n'y comprend rien, et donc cette mesure, l'article 12 de l'édit de Nantes, de l'édit de Fontainebleau, car ça s'est passé à Fontainebleau, là où était le roi, eh bien, cet article 12, on ne l'applique pas. Et le pouvoir dit, d'accord, vous ne l'appliquez pas. C'est-à-dire qu'à peine l'édit de Fontainebleau révoquant l'édit de Nantes est-il signé, qu'il n'est pas appliqué dans cet article 12. Et c'est un des éléments qui va, premièrement, entraîner un grand scandale dans l'ensemble de l'Europe, plus toutes autres choses. Mais deuxième point, qui va poser un vrai problème entre le national et le local. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que, alors que tout paraissait avoir réussi à Louis XIV, avant la révocation, à partir de la révocation et même dès les premiers jours, tout se dérègle et j'ai presque envie de dire tout échoue. Et d'abord, tout échoue pour la migration. L'émigration est massive, moins importante que ce qu'on a dit, mais elle est massive par le nombre de personnes. Il y a quand même pas loin de 200 000 personnes qui partent, autour de ça 80 000. Et elle est surtout massive qualitativement. Et elle est grave parce qu'elle renforce les autres nations. Elle renforce en particulier un petit pays qui est en train d'émerger, qui était d'ailleurs au départ favorable à Louis XIV, qui est la Prusse. Elle renforce, moins fortement, car c'est déjà plus organisé, l'Angleterre. Et elle les renforce dans des positions importantes. Les officiers, la Prusse n'avait pas beaucoup d'armées. Elle va se servir des officiers huguenots, des commerçants, des artisans. Figurez-vous que Berlin, qui était une ville qui avait à cette époque-là, à la Révocation, 20 000 habitants, autour de 18-20 000, plus du tiers, environ un tiers, était d'origine française. Et d'ailleurs, l'électeur de Brandebourg a bien compris, et face à l'édit de Fontainebleau, il publie un édit qui s'appelle l'édit de Potsdam, qui est quelque chose d'extraordinaire, car il donne une sorte, pardonnez-moi l'expression, un pont d'or aux Huguenots. Deuxième point, l'échec est aussi à l'intérieur du pays, à savoir que les Cévenols et les Bas-Languedociens, qui paraissent avoir complètement cédé, donnent les sentiments d'une première forme de résistance. On entend des psaumes dans les campagnes. Et si bien que, il ne faut pas attendre très longtemps, au bout d'un an, eh bien, on s'aperçoit de l'échec, et pas les gens un peu en distance, le Grand Condé, mais Louvois lui-même s'en aperçoit. Et il s'en aperçoit parce qu'à ce moment-là, il s'efforce de ne pas pousser à bout ce qu'on appelle les nouveaux convertis. Alors qu'il acceptait toutes sortes de pressions et que l'armée soit présente partout, il est beaucoup plus réticent pour l'utilisation de l'armée. Donc il y a une force de renversement et à ce moment-là, il y a une sorte de tension qui se crée entre les locaux et les nationaux au point de vue de l'État. Il y a une sorte de dérèglement de l'État. Et je ne parle pas des conséquences internationales, de la guerre de communication. Parmi les émigrés, beaucoup de journalistes protestants, Louis XIV devient le tyran. C'est-à-dire que l'absolutisme, qui jusqu'ici est une image extraordinaire et que beaucoup de souverains cherchaient à imiter, devient beaucoup plus ambigu, beaucoup plus négatif. Et puis, il y a un autre élément, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui avait un souverain catholique et qui disait « Oh, mais attention, je suis catholique, mais on accepte tous les groupes religieux. » Mais là, les gens ne croient plus le souverain anglais. Et donc, il est bien évident que son gendre, Guillaume d'Orange, qui va, 3 ans après, en 88, lancer une armée contre son beau-père comme catholique, et ce n'est pas uniquement pour cette raison-là, bien entendu, mais le phénomène de ce qu'a fait Louis XIV en France joue un rôle extraordinairement négatif pour le souverain catholique. Et d'autre part, l'armée de Guillaume d'Orange, son général en chef est un huguenot et il a plusieurs centaines d'officiers huguenots qui font partie du groupe. Si bien que parmi les causes des origines de la Révolution anglaise, eh bien, le phénomène de la Révocation a joué un rôle. Et alors, ce qui montre bien, finalement, qu'on se rend compte de l'échec, c'est qu'il y a un homme qui, lui, l'a très bien compris, c'est Vauban. Et alors, Vauban, il fait un mémoire extraordinaire, où il donne même, en conclusion de son mémoire, une sorte de modèle d'édit révoquant la Révocation. Il le transmet à Louvois. Et Louvois lui répond, ce qui est déjà extraordinaire, et lui répond cette phrase suivante, « Votre mémoire contient de fort bonnes choses, peut-être un peu outrée. » Vous vous rendez compte, le responsable de la Révocation, enfin, le responsable principal, c'est Louis XIV, le responsable de la Révocation, eh bien, il n'est pas contre. Il ajoute, je chercherai à les transmettre au roi. Il n'a rien transmis du tout, parce que nous sommes un système du sommet, de verticalité absolue. Et donc, après, on s'aperçoit, quand on dit très bien la suite du règne de Louis XIV, c'est qu'ils sont empoisonnés par cette affaire, à tel point que, à la fin du XVIIe siècle, il y a un conseil sur deux consacré au sujet. Vous vous rendez compte ? Un conseil sur deux. Louis XIV meurt. On pourrait penser que le régent, qui a, sur beaucoup de points, est revenu sur beaucoup de points sur la politique de Louis XIV, va revenir sur l'édit de Fontainebleau, et pas du tout. Il ne revient pas. Et alors, le plus fort, c'est qu'une des responsables de ce maintien, c'est le personnage qui, dans ses mémoires, était le plus hostile, apparemment, à la révocation, qui est Saint-Simon, qui, sans se poser de questions, quelques pages dans ses mémoires avant, est contre Louis XIV en tant que révoquant l'édit de Nantes, et quelques pages plus tard, en tant que conseiller du nouveau prince, et dit « surtout pas en revenir, surtout pas en arrière ». Ce qui a été mauvais dans la révocation, c'est la manière dont ça s'est fait, mais après tout, c'est réglé. C'est-à-dire que cet homme, théoriquement, il est contre, et lorsqu'il est en action, il est pour la révocation. Et après, ça va continuer. Et alors, le phénomène sur lequel on n'a pas assez insisté, c'est que la gravité de la révocation, ce n'est pas simplement ce qu'a fait Louis XIV, c'est tout ce qui se passe, tout ce qui se passe tout au long du XVIIIe siècle. Alors certes, surtout parce qu'on a la chance que Louis XV a fait beaucoup de guerres. Or, le nerf, en quelque sorte, de la répression, c'est l'armée, avec la poursuite des assemblées clandestines ou avec les dragonnades. Alors, comme il y a beaucoup de guerres, chaque fois qu'il y a une guerre, permettez l'expression, je fais volontairement, c'est pain béni pour les Huguenots. Pourquoi ? Parce que les troupes sont occupées un peu partout à l'étranger. Mais dès qu'il y a la paix, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce qu'effectivement, on revient. Et bien entendu, on revient et on poursuit. Alors certes, le nombre d'exécutés, le nombre de galériens, le nombre d'emprisonnés est beaucoup moins grand. Mais il y a toujours l'épée de Damoclès. Il y a d'autant plus l'épée de Damoclès qu'en 1724, au début du règne personnel de Louis XV, il y a une déclaration qui reprend la totalité des mesures de l'édit de Fontainebleau, sauf le problème de l'émigration, où là on accepte que les gens émigrent, et même va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que toutes les mesures successives ont été agglomérées. C'est une décision terrible. Alors, elle n'est pas toujours appliquée, bien entendu, heureusement, mais elle peut toujours servir à une autorité locale. Et il y a des autorités locales qui s'en servent tout au long du XVIIIe siècle. Et alors, il suffit d'ailleurs de se rappeler qu'une des icônes, permettez l'expression, de la résistance protestante, elle n'est pas au temps de Louis XIV, elle est au temps de Louis XV. C'est Marie Durand qui est emprisonnée en 1730 et qui n'est libéré qu'en 1768. On parle de l'affaire Calas, mais on oublie qu'à Toulouse, en 1762, ça on l'oublie, il y a un pasteur qui est encore exécuté avec deux autres de ces personnes, que des galériens sont condamnés quelques années plus tard, et que les derniers galériens ne sont libérés qu'en 1775. Alors, là où, disons, un rapport de force est en faveur des protestants, la plupart du temps, les autorités sont prudentes. Mais là où ils sont très minoritaires, les autorités peuvent uniquement, autorité locale qui veut faire sentir son pouvoir, agir. C'est-à-dire que tout au long du XVIIIe siècle, il y a un phénomène de Dancy dans lequel les protestants ont beau être le plus pacifique qui soit, on peut expliquer qu'il faut, absolument respecter les règles du royaume. Et lorsque même un pasteur est emprisonné et exécuté, on accepte et on cherche à éviter qu'il y ait des mouvements, ça ne fait rien. Et c'est, je crois, ce qui fait la gravité du phénomène, c'est justement cette sorte d'incapacité du pouvoir à revenir sur une mesure prise par Louis XIV. Tout à l'heure, vous avez évoqué la mémoire. Mais là, la mémoire, elle est très forte. Et il y a une très belle expression d'un pasteur du désert, Rabault-Saint-Étienne, c'est la place du fantôme de Louis XIV. Vous le savez très bien, le XVIIIe siècle n'est pas un siècle très religieux. C'est en théorie le siècle des Lumières, le siècle d'une certaine forme de sécularisation. Or, bon nombre de gens qui pratiquent la répression n'ont pas de conviction religieuse particulière. Et alors, ce qui frappe là encore, c'est que cette fois-ci, comme au XVIIe siècle, est-ce qu'il y a une demande de la société ? Alors oui, il y a une demande officielle des institutions ecclésiastiques, mais dans la réalité. J'ai beaucoup parlé, donc je vais uniquement donner le dernier exemple, hein, mais il est, j'allais dire, extraordinaire. En 1776, dans la route royale qui conduit de Saint-Jean-du-Gard à Florac, que certains d'entre vous connaissent peut-être, il y a un petit village qui a un nom, disons, qui au XXe siècle pouvait être bien retenu, qui s'appelle Le Pompidou. Le Pompidou, c'est un bourg où il y a un notable protestant très connu, enfin très connu du coin, hein, qui a été étudié par des gens que connaît aussi bien Franck, qui est Jean-Paul Chabrol, qui s'appelle Parlier. Parlier a une table d'hôte. Et un jour, il reçoit dans cette table d'hôte un personnage assez important, qui est De Saussure. De Saussure, c'est un grand géographe, géologue de Genève, qui est à l'origine de la conquête du Mont-Blanc. Il le reçoit et il est venu faire un voyage dans le sud de la France pour étudier la géologie du Massif central. Il est à la table d'hôte un jour de 1776. À cette table d'hôte, il trouve l'évêque de Mende qui la veille a couché chez Parlier. Ceux qui connaissent la géographie religieuse du coin savent que le Gévaudan, c'est une terre ultra-catholique, hein, par rapport aux Cévennes. L'évêque de Mende n'a pas de problème de se faire héberger par le principal notable, celui qui, en quelque sorte, contient la communauté protestante du coin. Bon, premier point. À côté de là, il y a deux pasteurs du désert. Alors, nous sommes en Languedoc, donc c'est maintenant apaisé. Et les pasteurs du désert, devant l'évêque, explique à Saussure, montre les lieux où il y a 16 ans, 1776, donc en 1760, il se cachait. Alors ça nous dit deux choses. Premièrement, qu'il y avait quand même été obligé de se cacher en 1760, même dans le Languedoc. Et deuxième point, que ça ne choquait absolument pas l'évêque, qui a écouté ça sans problème. Il n'y a aucun problème. Ensuite, je vous donne un deuxième exemple, toujours lié à cela. Ce Parlier, grand protestant, a envie de mettre pour son fils, avant il l'envoyait à Genève, mais là, maintenant, il n'a pas envie de s'en séparer, donc il veut trouver un collège, un bon collège. Et il y a un bon collège à Nîmes, tenu par les doctrinaires. Bon. Mais sa femme est un peu inquiète parce qu'elle se souvient de ce que lui avait raconté sa mère il y a 30 ans. Je veux bien le mettre dans ce collège, mais est-ce qu'on ne va pas chercher à le convertir ? Petit préptissement. Et le directeur du collège, qui est évidemment doctrinaire, donc un religieux, lui dit, oh, mais vous n'en faites pas. Il n'est pas le seul protestant. Il met le protestant. Hein. Il y a toute une série de gens. Et on lui laissera, en quelque sorte, la possibilité de faire ses prières, en quelque sorte. C'est pas dit aussi nettement que ça, mais ça revient à cela. Alors, voyez donc, dans un secteur qui a pourtant été marqué fortement, eh bien, c'est ce véritable climat d'une tolérance réelle. Donc, de la même façon qu'au XVIIe siècle, la société était déjà tolérante et en quelque sorte en opposition à l'État, à plus forte raison au XVIIIe siècle, et néanmoins, l'État a continué cette politique, et donc, ce qui montre bien la relativité des Lumières en France, et là encore la différence entre théorie et pratique. D'ailleurs, je vais peut-être vous choquer, On célèbre beaucoup Voltaire à cause de l'affaire Calas, mais il suffit de voir comment il parle des protestants dans le siècle de Louis XIV pour s'apercevoir que la tolérance de Voltaire sur ce point-là est tout à fait relative. Et vous comprenez par conséquent que c'est un phénomène qui a marqué profondément la culture française sur la longue durée et la culture de l'État, et en particulier sur le thème de l'unité, considéré avant tout comme uniformité et non pas comme gestion des diversités. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Philippe Joutard, pour cette rétrospective de l'histoire protestante au XVIIe siècle et avec cette rétrospective aussi de cette montée de la persécution, donc en ce début du règne de Louis XIV, et pour aussi cette approche, dont vous l'avez compris, hein, tout à fait nouvelle, de la révocation, une révocation qui finalement surgit et recrée des clivages là où il n'y en avait plus, quasiment, hein, ou en tout cas, cette, je crois que c'est Patrick Cabanel qui reprend un terme aussi employé par les historiens espagnols, de ce terme de covivance, hein, où il y avait une espèce de, non plus de coexistence, mais de vie commune, hein, entre ces communautés protestantes et catholiques qui s'étaient installées donc au XVIIe siècle et qui éclatent littéralement par ces mesures draconiennes prises par Louis XIV. Ce qui me frappe beaucoup, finalement, dans ce que vous dites, c'est que ce phénomène de covivance revient dans les années 1770 et que, finalement, cette covivance recommence à chaque fois par la base, hein, et que le pouvoir est incapable, finalement, de saisir cette capacité de la base de repratiquer, finalement, une tolérance que lui-même n'est pas capable, hein, finalement, de maîtriser, hormis, hein, quelques visionnaires, vous l'avez très bien dit, hein, comme Vauban, mais qui n'a pas d'écho au sein du pouvoir. Et puis encore, merci, hein, pour cette ouverture sur cette pratique de l'État très, très française, cette pratique de l'État unitaire, hein, qui n'arrive pas, finalement, à comprendre et à accepter une diversité, un État centralisateur, un État unificateur, hein, qui s'impose de manière extrêmement forte. Vous n'avez pas employé le terme de totalitaire, mais vous avez parlé de terreur, ce qui, au fond, n'en est pas très loin, malgré tout. Mais il y a quand même quelque chose qui s'approche du totalitarisme sous le règne de Louis XIV. Voilà, je suppose que vous avez des questions, des réflexions, donc je vous laisse intervenir maintenant pour continuer la réflexion et cette méditation, on pourrait dire, autour de cette révocation de l'édit de Nantes.
Toujours difficile en France, c'est un signe d'ailleurs, parce que vous avez été dans les pays étrangers, en particulier les pays anglo-saxons, ou même l'Allemagne, hein, de voir, là, immédiatement, il y a des gens qui disent qu'en France, c'est toujours...
C'est le temps de la méditation en France. Oui.
Est-ce que vous avez abordé les aspects de la révocation d'un point de vue intérieur? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le rôle qu'ont joué les puissances étrangères? En ce sens, est-ce que les puissances étrangères, à partir du règne de Louis XIV et des règnes suivants, notamment Louis XV, qui est en guerre avec une partie des nations européennes, est-ce que ces puissances étrangères tentent de faire pression sur la monarchie française? Est-ce qu'elles en ont les moyens? Et est-ce qu'elles tentent de le faire pour faire revenir, justement, le roi de France sur sa décision?
Absolument pas, et j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas intérêt. Y a un très bon, mais c'est une question très, très importante que vous posez, parce que ça a été l'espoir pendant très longtemps. Si vous voulez, les protestants français étaient absolument persuadés, tellement ils avaient une image positive du roi, de la monarchie plus largement, hein, qu'ils étaient persuadés que si le roi avait pris cette décision, c'est parce qu'il était mal informé. Et même chez les Camisards, qui a une résistance violente et guerrière, il y a cette idée que le roi ne sait pas. Et c'est d'autant plus fort que, encore une fois, ils ont compris ce qu'a fait Henri IV, ils y ont souvenir très fort, et même à la limite un peu ce qu'a fait Richelieu, hein, qui n'a pas abusé. Hein. Et d'ailleurs, par un terme très intéressant de la part de Richelieu, qui de ce point de vue-là était beaucoup plus en avance que Louis XIV, qui disait que seul Dieu qui connaît les consciences peut, si vous voulez, il avait le même principe un peu que les protestants, peut faire convertir. Donc, les protestants ont une sorte d'admiration extraordinaire vis-à-vis de la monarchie, et si bien que même certains qui ont été exilés sont restés favorables, et leur idée, c'était surtout de ne pas faire trop d'influencer trop les puissances étrangères pour ne pas donner l'impression d'être des complices de l'étranger. C'est-à-dire que même une fois au refuge, il y avait un parti qui, en particulier dans les traités de paix de la Ligue d'Augsbourg en 97-98, eh bien, n'ont pas voulu du tout intervenir auprès des puissances étrangères, mais voulaient intervenir auprès du roi. Alors, il y avait un parti, effectivement, de l'autre côté, qui, à la fin, est devenu alors violemment anti-français, soyons clairs, hein, vu ce qui était arrivé, et donc ont espéré pouvoir intervenir auprès, en particulier, du roi d'Angleterre. Et par conséquent, ils ont fait des mesures, ils ont organisé des groupes d'influence pour chercher à influencer le roi d'Angleterre. Mais le roi d'Angleterre avait très bien compris la situation. D'une certaine façon, ça lui rendait service. Supposez que Louis XIV soit revenu sur la révocation au moment de la paix de Ryswick en 98. Eh bien, un certain nombre de ses cadres revenaient en France, peut-être pas beaucoup, mais quand même, il y avait le risque que ces cadres reviennent en France. Et donc, il s'est bien gardé de faire la moindre chose en faveur des protestants français. Et je vais même plus loin. Une analyse de politique réaliste conduisait à surtout ne pas intervenir, car c'était un élément d'affaiblissement de l'État français, qui à cette époque était la première puissance mondiale. Et donc, tout ce qui pouvait affaiblir la première puissance mondiale, même quand on est à peu près en paix avec elle, est positif. Et on intervient d'autant moins qu'on est plus faible. Si bien que les Anglais ne sont pas intervenus, l'électeur de Brandebourg, qui après va devenir le roi de Prusse, qui a été un grand admirateur de Louis XIV, il a fait des bâtiments à l'image de Versailles. Et il parlait français. D'ailleurs, un des paradoxes de cette affaire, c'est que ça a permis la diffusion de la langue française dans l'ensemble de l'Europe. Ça a été un élément. Il n'avait pas du tout non plus intérêt de perdre. Et il avait accumulé les privilèges pour ses sujets huguenots. Et vous savez que le mot huguenot est très connu en Allemagne. Et qu'au cœur de Berlin, au centre de Berlin, tout près de la porte de Brandebourg, dans une grande avenue, il y a tout près une grande église huguenote, très belle église huguenote, qui est appelée l'église huguenote. Et les huguenots ont réussi à conserver leur privilège à la fois de structure institutionnelle, de langue, tout au long du XVIIIe siècle. Donc eux non plus n'avaient absolument pas intérêt à demander un apaisement. Au contraire. Et donc, en fait, ça a été ça, évidemment, l'ambiguïté. Les puissances étrangères n'ont pas directement soutenu les huguenots, sauf après, au XVIIIe siècle, quelques-uns, en particulier la monarchie anglaise, qui a, en quelque sorte, soutenu les églises du désert, oui, les a aidées, parfois même financièrement, parce que, d'une certaine façon, les Huguenots en France, c'était, permettez-moi l'expression, un peu une épine dans le pied des Français, même si au XVIIIe siècle, je précise tout de suite, les Huguenots étaient un modèle extraordinaire comme résistance non violente. À juste titre, on a célébré le 50e de Martin Luther King, mais si je crois les Français ont un lien assez fort à comprendre, c'est parce que je crois que la tradition principale, je suis spécialiste des Camisards, donc c'est pas la résistance guerrière, c'est cette résistance pacifique, d'abord géographiquement parce qu'elle s'étend partout, y compris d'ailleurs dans des endroits où il y a eu très peu de protestants, par exemple le Berry, un de mes collègues Didier Boisson l'a bien montré, d'une part, et parce qu'elle est de très longue durée, dans le lieu même des Camisards, eh bien, c'est un grand lieu aussi de résistance pacifique, et dès le départ, dès 1715. D'ailleurs, je pense que, je ne l'ai pas dit, mais parmi les résultats de cette histoire de longue durée, eh bien, je crois que si les protestants français se considèrent toujours comme une minorité, au bon sens du terme, et ont une certaine sensibilité aux autres minorités religieuses, c'est à la différence de tous les autres protestants, enfin, sauf peut-être dans certains pays d'Europe centrale où c'est le même cas, eh bien, c'est parce que, justement, il y a cette longue durée. Je pense que si, enfin, on peut rêver, mais si Louis XV, le régent, donc en 1715, avait rétabli, ou tout au moins, sans peut-être aller jusqu'à rétablir officiellement l'édit de Nantes, avait accepté, pratiquement, sans le dire, un culte, eh bien, il n'y aurait pas eu ce même sentiment, vous voyez, d'être de la longueur de la persécution. Ça fait non plus une génération, mais trois ou quatre générations, selon la date de naissance des gens qui l'ont vécu. Et ça change tout. Et l'une des raisons, vous le savez, c'est bien connu, pour lequel les protestants français, globalement, et pas simplement les pasteurs, ont joué un rôle important dans l'accueil des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et chaque fois que vous interrogez les personnes, la plupart d'entre elles sont mortes, évidemment, c'était ça, c'est ce lien qu'ils font entre leur passé et le passé des Juifs. Et la sensibilité, si vous voulez, des protestants français vis-à-vis, vous venez de le décrire, de cette unité-uniformité, plutôt la sensibilité contre cette idée d'unité-uniformité, je crois que c'est à cette longue durée qu'ils le doivent. Par conséquent, pour revenir à votre question, ce qui frappe beaucoup dans cette affaire, c'est que les autorités des pays étrangers se sont parfaitement bien accommodées de la révocation. Et que globalement, en revanche, ils ont accueilli avec intérêt l'émigration, y compris d'ailleurs certaines puissances catholiques. Bon, sans aller jusqu'à faire des édits en leur faveur, ils ont, dans certains cas, facilité au moins le passage. Il y a un excellent exemple, c'est la petite république de Gênes, où le roi de France est furieux parce qu'il apprend que les commerçants génois, par leur rapport avec les protestants, facilitent les rapports. Alors, ils voudraient bien faire quelque chose, mais que faire? Ils ont peur que s'ils prennent une mesure officielle, la République de Gênes n'en tienne pas compte. Ce qui frappe d'ailleurs dans cette affaire, c'est que finalement, les puissances catholiques, ça ne fait pas du tout d'union entre les puissances catholiques. C'est là où on voit que le problème, disons, de le clivage n'est plus au point de vue des États catholiques-protestants. Les phénomènes sont beaucoup plus complexes.
Oui, une question? Merci.
Un peu difficile à formuler, pardon. Si. Vous avez dit que la révocation, la prolongation de la révocation, vous avez donné des raisons politiques très intéressantes, des raisons d'État, etc. Vous avez bien mis le... contre un peu les aspirations et la volonté du peuple catholique.
Oui, enfin, ça, je... vous... oui, bah, allez-y.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un rôle du clergé? Je me serait le rôle du clergé, donc l'influence du clergé sur ces décisions d'État, du clergé catholique. Et, voilà. Et je pense même qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends l'œcuménisme, toute personne de l'œcuménisme qui bouge, on peut aussi penser que les peuples, protestants et catholiques, seraient plus œcuméniques que les clergés. Et donc peut-être qu'il y avait tout de même aussi des prolongations de raisons théologiques, de divergences théologiques qui sont...
intéressant. Bon, vous êtes tout à fait...
Peut-être que ce n'est pas seulement politique.
Non, mais d'accord. Bon, mais alors, attendez. Je suis d'accord avec vous. Bon, vous avez dit aspiration du peuple catholique. Bon, je ne suis quand même pas tout à fait jusque-là.
Non, pas aspiration.
Voilà, mais acceptation.
Tolérance.
Voilà, non, voilà. Non, mais acceptation. Acceptation, et d'ailleurs avec l'idée que finalement, il y a plusieurs voies d'accès à Dieu, de ce point de vue-là. C'est à peu près ça, je crois, hein. Et qu'il y a plusieurs voies, si vous voulez, je pense à un certain nombre de catholiques qui ont une sensibilité réformée ou protestante sans le savoir. Hein. Voilà, et je ne suis pas protestant moi-même, je le dis tout de suite. Bon, ça, vous avez raison. Deuxième point, là où vous avez tout à fait raison, c'est le rôle des institutions. Je crois qu'il faudrait ajouter l'État et les institutions. Bon, prenons au temps de Louis XIV. Votre question est tout à fait intéressante parce que Louis XIV, effectivement, soyons clairs, les assemblées du clergé, périodiquement, demandent qu'on revienne sur l'édit de Nantes et au mieux qu'on l'interprète à la rigueur. Mais, je veux dire au pire qu'on l'interprète à la rigueur, mais au mieux qu'on le supprime. Donc ça, c'est vrai. Mais ne pas oublier que les mêmes assemblées du clergé, Louis XIV, c'est dans ce sens-là que c'est politique, ce qui, du point de vue du catholicisme, est quand même contestable, les obligeait à rompre pratiquement avec le pape. Et on n'était pas très loin, hein, l'Église gallicane, hein, elle n'est pas excessivement loin de l'Église anglicane. Bon, il y a d'autres différences, mais je parle de ce point de vue-là. Et la preuve, c'est que le pape, et on a été obligé de le forcer pour faire un tédéum et donner des félicitations au roi. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on intervienne à plusieurs reprises. Le responsable, disons l'ambassadeur, intervient à plusieurs reprises. Alors, évidemment, il finit par donner quelques signes. Mais permettez-moi l'expression un peu familière, c'est le service minimum. Donc, c'est absolument vrai que l'Assemblée du clergé était contre l'édit de Nantes et pour la révocation. Ça, il n'y a aucun problème. Mais en tant qu'institution, et je veux dire, elle le demandait, mais rituellement. Et évidemment, ça a été après, quand il a révoqué, il a dit, j'ai révoqué, ben vous me donnez un don du clergé plus fort. C'est-à-dire que c'est une manière que, au temps de Louis XIV, soyons clairs, l'Assemblée du clergé était complètement dépendante du souverain, totalement. Les choses, en effet, au XVIIIe siècle, sont un peu plus complexes. Pour une raison très simple, c'est que l'absolutisme français s'est affaibli, mais s'est affaibli sans le dire. C'est-à-dire qu'il arrive mal à gérer toutes les petits groupes, en particulier les parlements qui s'opposent, et lesquels parlements sont en général à l'intérieur du catholicisme et jansénistes. Hein. Et un des grands problèmes des protestants, c'est que le soutien des philosophes ne va pas vis-à-vis d'eux. Les philosophes ne comprennent rien aux assemblées du désert, hein, et par contre soutiennent les jansénistes. Bon. Alors, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les structures de l'absolutisme s'affaiblissent, les institutions intermédiaires prennent de l'importance. Et paradoxalement, l'institution du clergé, l'assemblée du clergé, est plus influente au XVIIIe siècle qu'au XVIIe siècle. Et donc, vous avez raison de dire que parmi les obstacles qui ont conduit le pouvoir politique à ne pas donner la liberté de culte, c'est aussi l'Assemblée du clergé. Ça se voit très clairement dans le fameux édit qu'on appelle, que je n'ai pas dû vous parler, je n'ai pas eu le temps, j'avais épuisé les 50 minutes, l'édit dit de Tolérant de 1887, qui accorde simplement l'état civil, mais qui ne donne pas de liberté de culte. Et une des raisons invoquées par Malesherbes, qui est parfaitement convaincu, à la grande déception du pasteur Rabeau Saint-Étienne, c'est de dire « mais il y a le clergé ». Mais, si vous voulez, je ne parlerai pas de raisons, enfin, si, c'est évidemment des raisons théologiques aussi, mais de raisons religieuses prioritaires. Je crois que de ce point de vue-là, enfin, c'est ma thèse, le politique est prioritaire. Et là, une des raisons, par exemple, en 1787, pour lequel on est quand même 2 ans avant la Révolution, tout le monde est d'accord que ça a été un échec complet. Et il y a des nombres de livres qui sont tout à fait d'accord. Bon, pourquoi on ne le fait pas? Eh bien, c'est parce que, comme par ailleurs on est en pleine querelle financière, en pleine difficulté pré-révolutionnaire, on ne veut pas donner une raison supplémentaire. Donc, faute de pouvoir régler les autres questions, faute, je veux dire, comme on ne peut pas donner satisfaction sur les problèmes financiers, y compris au clergé, on lui donne satisfaction sur ce point-là. Vous voyez, c'est par ce phénomène-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est une raison sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, sur les faiblesses de l'État. C'est aussi la faiblesse de l'État du XVIIIe siècle qui est même incapable de réagir par rapport à l'institution du clergé. Louis XIV, il maîtrisait son clergé, Louis XVI ne le maîtrise pas du tout. Et donc, ils sont devenus complètement indépendants, comme les nobles sont indépendants. Si vous voulez, en même temps que paradoxalement, l'absolutisme de Henri IV permet l'édit de Nantes, l'absolutisme de Louis XIV, qui en effet, vous avez tout à fait raison, autoritaire, pour point de vue dictatorial, va dans le sens de la révocation, révoque, et l'affaiblissement de cet absolutisme empêche de révoquer la révocation parce qu'elle donne un pouvoir au clergé qu'il n'avait pas au temps de Louis XIV. Vous voyez, voilà. C'est pour ça que je ne pense pas que le motif religieux soit le plus important. C'est plutôt faute de mieux, on ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas leur donner raison là-dessus, donc je leur donne raison là-dessus. Voilà. Vous voyez ?
Oui.
À la Cour de France, il y avait beaucoup d'Italiens proches du pape, dans sa région, dans son île, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas eu d'influence dans son contexte, c'est-à-dire pour partir justement à la révocation? Est-ce que c'est pas cette influence que ça fait préparer?
Écoutez, le problème des Italiens vis-à-vis de la papauté, même, c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs, c'est un phénomène de longue durée, reste très ambigu. Ils sont tout à fait d'accord, ils aiment bien Rome, que le pape soit à Rome, et à plus forte raison, éventuellement souverain à Rome pendant un certain temps, tout au moins, mais ils connaissent aussi les limites. Donc, par conséquent, de ce point de vue-là, leur attitude, et vous avez raison de souligner l'importance considérable. Alors, prenons le cas de façon très concrète, puisque vous avez parlé de Consigny. La régente, juste après la mort d'Henri IV, l'assassinat d'Henri IV, un phénomène assez intéressant, avec plusieurs exemples, en particulier à Saumur, où nous avons une sorte d'union, il y a une sorte d'union, enfin je vais faire un peu un anachronisme, l'union nationale catholique-protestant, ça a tellement frappé l'opinion que la première mesure de la régente, c'est de confirmer complètement l'édit de Nantes. Après ça, l'affaire se brouille, si on peut dire, parce qu'il y a toujours ce parti huguenot. Et en particulier, on arrive mal à voir dans le comportement, en particulier de c'est Rohan qui, dès le départ, est chef de ce parti huguenot pendant tout le règne de Louis XIII, la part, je crois, sincère en partie, et la part d'intérêt personnel ou de collectif. Or, une partie de l'agitation contre la régente est un mélange curieux de réactions entre guillemets religieuses et de réactions politiques. Et d'une certaine façon, un certain nombre de gens, disons, enfin, le Consigny répond plutôt à des attaques qu'il les provoque. Donc, il n'a jamais été repéré comme quelqu'un en faveur des catholiques ultra. Alors, en revanche, là où vous avez raison, c'est qu'au fur et à mesure que le siècle s'écoule, se constitue, au temps de Louis XIII, un parti catholique très fort, qu'on appelle le parti dévot, D-E-V-O-T, bien entendu. Hein. C'est un parti qui, donc, veut agir politiquement, en particulier sur deux points. D'une part, alliance avec l'Espagne, fin de la lutte contre l'Espagne, puissance catholique. Et deuxième point, et donc, fin des alliances avec les princes protestants des Pays-Bas ou même de l'Angleterre. Et d'autre part, en effet, fin de l'édit de Nantes. Ce parti dévot est très fort auprès, à un moment donné, de Louis XIII. Il s'appuie sur la régente, après, italienne. Le Consigny est parti. Il s'appuie, enfin, sur l'ancienne régente, elle n'est plus régente à ce moment-là. Il s'appuie sur Anne d'Autriche. Hein, et, d'une certaine façon, il croit son triomphe arrivé avec le siège de La Rochelle. Et d'ailleurs, ce siège de La Rochelle, après, il y a un tédéum, ça prend l'allure d'une glorification catholique. Et ils étaient absolument persuadés qu'après le siège de La Rochelle, la plus forte raison, comme je l'ai dit, la chute de Rouen, on rétablirait le catholicisme dans toute sa splendeur. Mais Richelieu, qui par ailleurs est cardinal, est convaincu. Hein, c'est pas Mazarin, hein, bon, c'est plus douteux. Richelieu, stratégiquement, qui au départ était plutôt en effet du côté des partis dévots, est devenu plutôt de l'autre côté. Et la fameuse journée, dont certains d'entre vous peut-être se rappellent, la journée des dupes, hein, c'est-à-dire où il y a un vrai conflit autour de Louis XIII, qui va prendre le pouvoir, et Richelieu croit qu'il l'a perdu, et puis finalement il rétablit la situation, c'est le parti dévot qui est vaincu d'une certaine façon. Paradoxalement, Richelieu, catholique, très convaincu, il a écrit des livres pour la conversion. Et par ailleurs, politiquement, j'allais dire, il n'y a pas du tout intérêt à ce que le parti dévot l'emporte. Vous voyez, donc, Richelieu est clairement du côté des contre la révocation de l'édit de Nantes et pour l'édit de Nîmes. Vous voyez, et là encore, il n'y a pas vraiment d'Italien dans le coup. Donc, ma conclusion est que tout ça, c'est des lieux d'influence dans lesquels il y a une interaction, c'est un peu compliqué évidemment, entre problème intérieur et problème extérieur, mais je ne pense pas vraiment, hein, d'ailleurs, cette question a été beaucoup étudiée par mes collègues avant moi d'ailleurs, hein, bon nombre de gens, et en particulier, y compris Bernard Cottret d'ailleurs, que certains d'entre vous connaissent, très bien étudié. Non, je ne pense pas que le rôle des Italiens ait joué important. Vous voyez, par contre, c'est vrai que le groupe des femmes autour de Richelieu était plutôt du côté des catholiques et du côté donc de la révocation de l'édit de Nantes avant.
Et juste un peu après
Mazarin. Oui, alors Mazarin, justement, ça c'est extrêmement intéressant. Vous avez raison de me poser la question. Alors Mazarin, c'est extrêmement clair. Les protestants sont les appuis les plus fermes de Mazarin. Il n'y a pratiquement pas de protestants, ou à la limite, il y a Turenne, qui est un petit peu, mais c'est en tant que gentilhomme. Mais c'est le seul exemple. Mais tous les consistoires, à toutes les, toutes les fois font des déclarations très fermes en faveur de la famille royale. Et la preuve, c'est que c'est au temps de Mazarin le sommet, au point de vue institutionnel, d'appui du pouvoir vis-à-vis des protestants, il se fait au temps de Mazarin, un peu avant, autour des années 1656. Mais alors, ce qui va se produire, et qui va évidemment, par contre, être un élément négatif pour les protestants français, Elisabeth Labrousse l'avait très bien montré, c'est la première révolution anglaise et le fait qu'on accuse les protestants français qui ont une structure ecclésiastique comparable aux puritains. Ils disent c'est la même structure ecclésiastique, donc ils sont complices de ce qui s'est passé en Angleterre, ce sont des républicains. Dès cette époque, Voltaire l'avait d'ailleurs dit, Louis XIV est un peu élevé dans l'idée que les protestants français sont des républicains. Et donc, on sent dans la deuxième partie du règne de Mazarin, mais Louis XIV commence à prendre de l'influence, à ce moment-là, disons que le renversement s'effectue. Mais la première partie, disons, du pouvoir de Mazarin et de la reine-mère, la première partie est favorable aux protestants. Et ce n'est que vraiment dans les quelques années qui précèdent le règne personnel que les choses changent. Vous voyez, vers 56-57, ça évolue. Effectivement, ça évolue. Mais vous voyez, même Mazarin a eu une grande période où il a été pas pro-protestant, mais qu'il a dit que il y a eu des formules sur lesquelles ce sont des brebis qui pèsent le mauvais pré, mais elles sont fidèles. Quelque chose comme ça, à peu près.
Bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je vous propose, si vous le voulez, de continuer cette conversation avec Philippe Joutard personnellement. Je vous annonce que la prochaine conférence de la librairie, ce sera demain soir à la Maison du protestantisme. Et c'est Anne Reholt qui viendra évoquer le sujet de l'éducation et du protestantisme, puisqu'on a souvent oublié que les protestants avaient plus d'un millier d'écoles au XIXe siècle, qu'ils ont complètement abandonné, à mon grand regret d'ailleurs, ce réseau d'écoles, alors que les catholiques l'ont maintenu, ce qui, je pense, était beaucoup plus judicieux. Mais bref, on en discutera demain, si vous le voulez. Et donc, éducation et réveil est un des aspects importants et largement oubliés du protestantisme français. Ça sera donc abordé demain par Anne Reholt. L'autre rendez-vous de la librairie, ça sera le vendredi 27 avril, encore à la Maison du protestantisme, c'est Nicolas Fouquet qui viendra parler d'un de ses ouvrages et d'une exposition qui se tiendra d'ailleurs ensuite à la Maison du protestantisme, que je vous recommande, et qui s'intitule « Ils ont aimé leur prochain, tout le travail des protestants, des œuvres protestantes, notamment au XIXe siècle, à partir de plusieurs figures ». Donc vendredi 27 avril, et puis ensuite, mais vous retrouverez une partie de l'annonce de cette conférence dans ce livret « Prenez-les ». Faites-les connaître, distribuez-les autour de vous, faites connaître la librairie, bien sûr. Et puis, l'autre conférence, ça sera en mai, ça sera à l'église d'Alésia, l'église libre d'Alésia, avec le professeur Olivier Millet, enseignant à la Sorbonne, qui viendra nous parler cette fois du thème, justement, les protestants parlent, et les protestants ont parlé aussi au travers de la poésie, la versification et la poésie protestante. Voilà, donc ça sera Olivier Millet. Je remercie une nouvelle fois la présidente de nous avoir accueillis ici, nous avoir reçus si généreusement, ainsi que la paroisse. Je vous rappelle ce très beau livre de Philippe Joutard, La révocation de l'édit de Nantes ou les faiblesses d'un État. Et puis je vous propose de remercier à nouveau Philippe Joutard. Merci, monsieur Joutard.